VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans quelques minutes, notre magazine Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Moret-Gibourg. En attendant, un bulletin d'information. Deux personnes ont été abattues ce vendredi matin en plein centre-ville de la capitale du Burundi, Bujumbura. Cet assassinat coïncide avec les sanctions infligées à quatre proches du pouvoir accusés d'avoir réprimé les manifestants. L'Union européenne appelle au dialogue comme la seule issue à la crise que traverse le pays depuis la confirmation du troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura, fait le point.
Il est 9h30 quand des détonations automatiques sont entendues au centre-ville de Bujumbura. Deux personnes mortes dorment dans une mare de sang dans une voiture de marque Toyota TI. C'est sur l'avenue de la Révolution. Les sources de la police confirment que ces personnes venaient de retirer de l'argent quand des hommes armés ont tiré sur elles. Mercredi, au moins 4 personnes, dont l'officier de police Jean-Claude Kazungu et un membre des services de renseignement, connu sous le sobriquet de Family, ont été assassinés dans deux quartiers au nord de la capitale. Ces assassinats interviennent au moment où l'Union européenne a adopté jeudi des sanctions contre 4 personnes impliquées dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le directeur adjoint de la police, Godefroy Bizimana, et le chef de cabinet de l'administration présidentielle chargé de la police nationale, Gervais Ndirakobuchi alias Ndagukugarika, figurent parmi les personnes sanctionnées. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
République centrafricaine, le calendrier électoral au cœur des débats. La communauté internationale milite en faveur du maintien des élections législatives et présidentielles au 18 octobre, mais sur place, de plus en plus d'acteurs réclament le report pur et simple. C'est le cas de Jean-Willy Biro-Sacco, l'un des candidats à la présidentielle.
Pour le souhait de tout le monde, je crois, c'est que les élections se tiennent. Mais il faut être réaliste. Les élections sont des opérations assez délicates, assez complexes, qui doivent se tenir dans un certain environnement avec un minimum de conditions réunies. C'est tout. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les grandes difficultés actuelles, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de l'avancement des travaux préparatoires de l'ANE elle-même. Je sais que sur le plan financier, les problèmes ont été plus ou moins résolus avec les annonces qui ont été faites à New York par rapport à l'appui à l'ANE. Mais les autres éléments objectifs, la sécurité, l'état de préparation au niveau de l'AME, l'état d'avancement du financement et la production des listes électorales sont des données incontournables. Si tout est fait pour que ces quelques problèmes puissent être résolus, tout le monde ira aux élections.
Jean-Willy Biro-Sacco, candidat à la présidentielle en République centrafricaine. Toujours en RCA, des groupes armés empêchent les organisations humanitaires d'accéder à plus de 42 000 déplacés à Bangui. C'est ce que rapporte l'ONU. Ces personnes ont fui les récentes violences dans la capitale centrafricaine et sont totalement démunies. Mais les humanitaires ne peuvent pas les atteindre à cause de l'insécurité. Bloquer délibérément cette aide est une violation des lois internationales, rappellent les Nations Unies. De plus, des bureaux d'ONG ont été pillés, provoquant la fuite de leurs employés. L'ONU signale aussi que la situation en province se dégrade, alors que des groupes armés sèment la panique au sein de la population. L'Organisation des Nations Unies appelle tous ceux qui sont impliqués à cesser les violences. Au moins 14 morts dans 4 attentats suicides à Maïdougouri, au Nigeria, jeudi soir, selon l'armée nigériane. Michel Joseph.
Au moins 14, dont les 4 kamikazes et 39 blessés hier soir dans ces derniers attentats. Un porte-parole a déclaré que les attaques ont eu lieu à proximité de la voie ferrée Adjilari à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Cette ville est régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram. Le 20 septembre, 100 personnes ont péri dans une série d'explosions coordonnées attribuées aux islamistes armés. En août, le président Muhammadu Buhari avait donné au commandant militaire un délai de 3 mois pour mettre fin à l'insurrection. Hier, selon l'armée nigériane, 80 combattants de Boko Haram se sont rendus dans la ville de Bama. Depuis 2009, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la violente campagne pour imposer la loi islamique dans le nord du Nigeria.
Tragique bilan pour le Niger suite à la bousculade du 24 septembre près de la Mecque. 28 Nigériens sont morts et 89 sont portés disparus à Mina lors du grand pèlerinage musulman, le Hajj. Les recherches des disparus et l'identification des victimes se poursuivent, mais le processus se complique à mesure que le temps passe. La Tunisie a annoncé ce soir la levée de l'état d'urgence qui avait été réintroduit début juillet suite à l'attentat sanglant de Sousse. Cet attentat revendiqué par le groupe État islamique avait fait 38 morts, rappelle l'agence France-Presse. Inquiétude en Éthiopie, quelques 7,5 millions de personnes auront besoin d'aide alimentaire en octobre, cause une saison des pluies particulièrement faible. En 2016, la crise alimentaire pourrait toucher 15 millions de personnes, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. Sans une réaction vigoureuse soutenue par la communauté internationale, la probabilité d'une catastrophe alimentaire en Éthiopie est très élevée, estime l'OCHA.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au troisième jour des raids aériens russes en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme apporte des renseignements complémentaires sur les cibles de ces frappes, dit Lidico.
Selon le ministère russe de la Défense, le bilan provisoire des premiers raids est de 12 djihadistes tués jeudi soir lors d'une frappe qui a visé la province de Raqqa, fief du groupe État islamique. C'est la première fois depuis le début des frappes que les Russes bombardent Raqqa, dont le chef-lieu est considéré comme la capitale de Daesh. Moscou a indiqué que ces bombardiers ont ciblé un poste de commandement à Kasrat Faraj, au sud-ouest de Raqqa, et un camp d'entraînement près de Madan Jadid à l'est. Les porte-paroles russes ont rapporté que trois autres provinces ont été touchées, Alep, Idleb et Hama, où des postes de commandement et des camps de stockage d'armes ont été détruits. Ces frappes ont continué aujourd'hui. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe État islamique n'a pas de présence dans ces villes. C'est le groupe Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui domine ces régions.
Washington soupçonne Moscou de s'en prendre surtout aux opposants du président syrien Bachar al-Assad. Un avion de transport militaire américain C-130 s'est écrasé aujourd'hui sur la piste de l'aéroport de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, faisant 11 morts, 6 militaires américains et 5 contractuels civils de l'OTAN. Les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête. Les talibans disent avoir abattu l'appareil, ce que démentent les autorités américaines. Au Yémen, le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, aux mains des rebelles chiites depuis plusieurs mois, est passé sous contrôle gouvernemental. En tout cas, c'est ce qu'annonce un responsable de l'armée du président Mansour Hadi. Une bonne partie du trafic maritime mondial transite par ce détroit. États-Unis, les motifs du tireur qui a abattu 9 personnes sur un campus de l'ouest des États-Unis jeudi restaient mystérieux ce matin, des bribes de biographie faisant apparaître un jeune homme taciturne. Il faut dire que le tireur a été lui aussi éliminé. L'Amérique, elle, se déchire sur le contrôle des armes à feu comme après chaque massacre. Claire Morin-Gibourg.
La police s'est rendue chez le tireur, mais il est encore trop tôt pour dire quel était son motif, a précisé le shérif du comté local, John Hunlin. Il a confirmé que le tueur avait été abattu par les forces de l'ordre, car il était armé jusqu'aux dents. Il a appelé les médias à la prudence.
Nous vous demandons de ne pas exalter ni de faire de sensationnalisme sur lui. Il ne le mérite en aucune façon.
Il n'a pas été confirmé si, comme le rapportent plusieurs médias, le tueur avait demandé aux étudiants de dire s'ils étaient chrétiens. Paniqués, les étudiants se sont protégés comme ils pouvaient. Anna, elle, a pu s'enfuir.
L'un de mes camarades de classe s'est levé et il a dit « Tout le monde dehors, allez, on y va ». Et on s'est immédiatement mis à courir.
Le maire de Rosebourg, bourgade rurale et tranquille, a dénoncé un crime insensé. Des dizaines de personnes, beaucoup en larmes, se sont recueillies jeudi soir autour d'une veillée aux chandelles.
Bonne nouvelle pour les habitants de la côte est des États-Unis. L'ouragan Joaquin, de catégorie 4, qui a déversé des pluies torrentielles sur les Bahamas ce vendredi, ne devrait pas avoir d'impact direct sur la région. Ce qui n'empêche pas les gouverneurs de 5 États, New Jersey, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Maryland, de déclarer l'urgence et d'annoncer des mesures de contingence, y compris la mobilisation de la garde nationale. Il y a près de 3 ans, un super ouragan Sandy, on se le rappelle, suivait une trajectoire presque similaire, avant de changer pourtant de cap et dévaster finalement le New Jersey et New York, tuant plus de 120 personnes et causant des dégâts évalués à 70 milliards de dollars, espérant que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Nouvelle du Monde, Washington, chez Ruben Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.